Il est 8h.
Il n'est pas question de fermer les frontières. Je pense que ce serait un préjudice pour tout le monde. Il y a beaucoup d'interactions entre nos deux pays. Je crois que chacun prendra ses responsabilités. En tous les cas, on fait tout ce qui est possible pour que ça n'arrive pas.
La fermeté du sous-préfet de Metz face aux rumeurs de fermeture stricte des frontières entre la Moselle et l'Allemagne. Nous serons à Berlin dans un instant pour voir ce qui est envisagé par Angela Merkel et avec le chef du service politique d'Europe 1 qui nous dira comment l'Elysée manœuvre pour éviter un blocage. Le retour des concerts avec du public. Pourra-t-on sauver la saison des festivals ? Roselyne Bachelot se saisit directement des expérimentations qui se préparent avec des milliers de spectateurs à Marseille et Paris. Dans ce journal, le témoignage depuis Rangoon d'une birmane face à la répression de la junte, les détails du nouveau diagnostic de performance énergétique plus fiable et potentiellement plus intéressant pour ceux qui souhaitent vendre un logement, et puis le PSG face au Barça ce soir en l'absence de Neymar, Kylian Mbappé à l'occasion de prendre des responsabilités.
Juste après ce journal, Sonia Mabrouk reçoit celle qui est à l'origine de cette proposition de zone sans contrôle d'identité, la défenseure des droits, Claire Hédon. Bon réveil à tous, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le risque quand on est voisin d'un pays confiné sans l'être soi-même. Même si l'épidémie semble s'être un peu tassée ces derniers jours en France, il en était de même en Allemagne qui est confinée. Et la comparaison avec notre voisin reste donc la même. Il y a proportionnellement 3 fois plus de contamination chez nous en ce moment. L'Allemagne ferme ses frontières aux voyageurs venus des zones où circulent les variants du virus. C'est le cas depuis dimanche du Tyrol autrichien et de la République tchèque.
Et nous sommes à Berlin en direct. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Allemagne. Cette mesure pourrait donc concerner aussi la Moselle ?
Oui, et pourtant la situation à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, avec encore des heures d'embouteillage hier, c'est vraiment le cauchemar des autorités locales en Sarre, en Palatinat ou en Lorraine côté français, parce que chaque jour près de 50 000 Français vont travailler en Allemagne. Imaginez le chaos s'ils doivent se faire tester pour avoir le droit de passer la frontière, et cela tous les jours. Alors du côté des politiques allemands, le message est très clair, hein. Les contrôles à la frontière ne doivent être instaurés qu'en ultime recours, mais dès qu'on coupe les micros, ces élus locaux côté allemand sont fatalistes. En fait, il n'y a aucune raison pour que l'Institut Robert Koch, qui s'occupe de la veille sanitaire ici en Allemagne, fasse une exception pour la Moselle, département qui devrait donc en toute logique être classé territoire à haut risque d'ici les prochains jours, comme c'est le cas pour absolument toutes les zones du monde qui ont des foyers de virus mutants. Et là, il n'y a plus rien à faire, déplore un membre du gouvernement de Sarre. La frontière ne sera pas complètement fermée, mais seuls passeront ceux qui auront un test PCR négatif et quelques métiers qui font exception. Et donc son seul espoir, c'est de décrocher le droit d'allonger cette liste des exceptions, la liste des métiers, la liste des situations de famille aussi qui échapperont à la règle du test ou qui auront le droit peut-être de ne se faire tester qu'une fois par semaine.
Les derniers détails en direct depuis Berlin avec Hélène Kohl. Merci Hélène.
Alors qu'en dit-on côté français ? Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
On a entendu dans les titres le « pas question » du sous-préfet de Metz, pas question de fermer cette frontière. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. L'exécutif français agit en coulisses pour éviter toute mesure stricte.
Alors, il y a une heure à peine, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, me confiait « la mobilisation semble payée. L'Allemagne, dit-il, ne prendra pas de mesures comme à l'égard de l'Autriche. » C'est ce qu'il veut croire, mais il reste tout de même prudent. Depuis hier, ce secrétaire d'État aux Affaires européennes est pendu au téléphone avec les présidents des Länder frontaliers, avec son homologue à Berlin. Il veut effectivement décrocher donc un statut spécial avec des contraintes allégées, de manière à ce que les 50 000 Français, on l'a entendu, dont ne soient pas obligés d'aller se faire tester chaque jour pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. L'enjeu est évidemment politique. La décision d'accorder une exception aux frontaliers de Moselle doit se prendre conjointement avec le gouvernement fédéral à Berlin, dit-il. Une manière aussi de préserver une façade, n'est-ce pas, de coordination européenne, alors que depuis mars dernier, les pays de l'Union européenne s'étaient engagés à ne plus se barricader. Et bien, selon nos informations, les consultations entre Paris, Berlin et les 3 Länder vont se poursuivre toute la semaine.
Les dernières informations en direct du chef du service politique d'Europe 1, Mickaël Darmon, merci.
Un point sur la vaccination en France. 3 millions de doses ont été injectées à ce stade, dont 720 000 deuxième dose. De son côté, la Commission européenne lance un programme pour étudier les mutations des virus, annonce ce matin de sa présidente Ursula von der Leyen au journal Les Échos.
8h05 sur Europe 1. Les Marseillais d'IAM, va-t-on pouvoir danser le Mia dans cette ambiance de concert ? Bien, le groupe de rap, bientôt acteur de la sortie de la crise sanitaire, c'est une information ce matin.
Oui, puisqu'il est annoncé sur la scène d'un concert expérimental à visée scientifique. Il y aura bien du public et même en nombre. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé sur LCI se saisir directement de ces tests géants pour dans quelques semaines.
Nous sommes en train de monter deux expérimentations à Marseille, deux concerts de 1000 personnes assis avec la possibilité de se lever au Dôme de Marseille, et puis à Paris, à l'Accor Arena. Alors là, c'est un concert en jauge debout de 5000 personnes.
Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour.
Vous nous aviez expliqué il y a quelques semaines comment des expérimentations similaires avaient eu lieu en Espagne et en Allemagne. Comment ça va se passer en France ?
Eh bien concrètement, à Marseille, tout le monde sera testé, mais on ne filtrera pas les spectateurs. C'est-à-dire que même les personnes positives iront au concert, car l'idée, c'est de mettre le plus possible en situation réelle. À Paris, ce sera un petit peu différent, puisque dans la salle, il n'y aura que des personnes testées négatives. Ils seront 5000 spectateurs devant Indochine en tête d'affiche, a priori. Le public, bien que masqué, pourra danser debout, prendre un verre au bar, bref, comme la vie d'avant. L'objectif de ces deux expérimentations, eh bien, c'est de préparer la saison des festivals. L'un des organisateurs de cette expérience à Paris, d'ailleurs, c'est Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort, qui doivent se tenir début juillet. Chaque année, c'est 100 000 spectateurs. Alors, pour l'instant, la ministre de la Culture est plutôt dubitative sur la possibilité d'avoir des festivals en configuration debout cet été, mais elle reste optimiste sur une formule en assis qui reste encore à définir.
Angèle Châtelier, on vous retrouve d'ailleurs toute cette semaine, juste avant Nicolas Canteloup, pour écouter Le Monde chanter. C'est votre chronique musicale à 8h40. Les concerts qui seront l'un des symptômes positifs de la reprise économique. On a depuis tout juste une demi-heure les chiffres du chômage selon l'INSEE pour les trois derniers mois de 2020. Surprenant, une fois de plus, baisse du chômage à 8%, mais baisse en trompe-l'œil, précise l'Institut de la Statistique. L'explication, c'est que beaucoup de personnes ont renoncé à rechercher du travail. C'était au moment du deuxième confinement et sont donc sorti des critères du chômage.
On en vient à cette enquête ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique après l'agression subie par des policiers ce week-end dans les Yvelines.
Oui, appel au meurtre, insulte, tir de mortier d'artifice. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était hier soir au commissariat de Poissy pour redire son soutien aux forces de l'ordre.
Il ne faut rien laisser passer en République. S'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République. Et le ministère de l'Intérieur soutient ces policiers et ces gendarmes, des moyens matériels supplémentaires, et redire à l'ensemble de la population française, qui je sais soutient les policiers, que nous ne laisserons pas passer le moindre laxisme envers ces quelques-uns qui embêtent une très grande majorité d'entre nous.
Gérald Darmanin au micro de Louis de Raguenel d'Europe 1, seul journaliste d'ailleurs à avoir pu assister aux échanges aussi à l'intérieur du commissariat de Poissy, nous le décrivait dans le journal de 7h. Le ministre de l'Intérieur rejette la proposition de la défenseure des droits qui sera dans ce studio avec Sonia Mabrouk dans moins de 10 minutes. Claire Hédon veut tester des zones sans contrôle d'identité en raison des dérives de discrimination dénoncées par plusieurs rapports. Réaction de Gérald Darmanin face aux policiers hier soir, je ne serai pas le ministre de l'Intérieur qui mettent en place des zones de non-droit et de non-contrôle. En Birmanie, la contestation ne cède pas face à la pression progressive de la junte. Les manifestations continuent, elles sont quotidiennes après le coup d'état militaire. L'armée qui a tiré sur des manifestants ce week-end, l'ONU condamne par ailleurs les coupures d'Internet qui sapent, selon lui, les principes démocratiques fondamentaux.
Pour Europe 1, Mathieu Bock a pu joindre une Birmane francophone à Rangoon, la capitale économique, où les affrontements avec les militaires sont quotidiens.
Les gens du quartier, on doit se protéger nous-mêmes. Là, maintenant, on ne peut plus faire confiance, les polices, personne.
Depuis plusieurs jours, Tantarwin sort le moins possible de son appartement. Cette guide touristique descend seulement pour acheter à manger, mais toujours autour de son immeuble. Avec ses voisins, elle s'est barricadée dans son quartier.
Chaque quartier, chaque rue, on a mis des barrières en bambou. Des barrières, mais c'est rigolo, mais c'est en bambou. Les rues de Rangoon, il y a les chars pour nous faire peur. Insupportable, vraiment.
Mais cette militante de la première heure envisage de redescendre dans la rue, même si elle doit y laisser la vie, dit-elle.
Nous, on a peur de deux côtés. On a peur d'être tué, mais de l'autre côté, on a peur de rester avec eux encore. Non, on ne veut plus, parce qu'il nous a tout cassé les droits d'homme. Si on a peur, on doit mourir plusieurs fois. Si on n'a pas peur, on ne meurt qu'une seule fois. Et donc moi, j'ai pas peur.
Tantarwin ira donc manifester cet après-midi et promet de publier le plus de photos possibles sur les réseaux sociaux, malgré les coupures Internet.
Mathieu Bock.
8h10 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. Il est indispensable pour revendre votre logement au bon prix. Le diagnostic de performance énergétique va devenir plus fiable dans quelques mois.
Et puis le PSG sans Neymar face à Barcelone, mais avec Mbappé qui pourra faire ses preuves.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Parmi l'avalanche de documents à fournir au moment de vendre un logement, le diagnostic de performance énergétique, DPE pour les intimes de l'administratif, outil bien utile alors que le gouvernement veut inciter à la rénovation des logements courants d'air qui représentent 5 millions de maisons et d'appartements.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1. Un nouveau diagnostic de performance énergétique va devenir obligatoire au 1er juillet et devrait être plus simple et plus efficace.
Oui, il y aura deux nouvelles rubriques sur ce diagnostic de performance énergétique. Combien de CO2 émet le logement et quel va être le montant de la facture d'énergie? Ça comprend chauffage, eau chaude, climatisation, mais aussi électricité et ventilation. Il y aura une fourchette de prix inscrite, basée non plus sur les factures de l'occupant précédent, qui pouvait très bien se chauffer par exemple à 18 degrés alors que vous vivez à 20 degrés, mais sur l'isolation réelle du logement. Et la grande nouveauté, c'est que ce diagnostic d'énergie sera opposable. C'est-à-dire que s'il y a un écart très important sur votre facture, vous pourrez refaire un diagnostic et attaquer le vendeur ou le loueur.
Donc ces améliorations, Virginie, ça va rendre le diagnostic plus fiable. Ça devrait aussi augmenter ce qu'on appelle la valeur verte.
Oui, la valeur verte, c'est quand on vend un peu plus cher au mètre carré les logements bien isolés, donc notés A ou B, sachant que la moyenne en France, c'est plutôt D. Les notaires le constatent déjà, notamment dans la moitié nord-est de la France, où les conditions climatiques sont les plus rudes. D'après une étude menée fin 2020, maître Frédéric Violot, notaire à Caen et président de l'Institut notarial du droit immobilier.
Je vais vous prendre l'exemple de la Normandie. Si on se pose la question de savoir quelle est la plus-value apportée à un appartement qui va être classé en A et B par rapport à un appartement classe D, on va avoir un écart de prix de l'ordre de 15%. Donc c'est pas négligeable. Négativement, quand je vais prendre une maison classée en F ou G, on va avoir une moins-value de l'ordre de 10%.
Cette valeur verte est à relativiser dans les zones en forte tension immobilière, mais selon les notaires, cet écart de prix devrait encore augmenter avec un DPE plus fiable à partir de juillet prochain.
Merci Virginie Salmen pour la spécialiste environnement d'Europe 1.
Une affiche de rêve que nous vous proposons ce soir sur Europe 1 en intégralité. Le Barça de Lionel Messi qui accueille le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions de football.
Allons tout de suite à Barcelone rejoindre Julien Froment. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ce match, Paris va devoir le jouer sans Neymar, sans Di Maria, tous les deux blessés. Mais c'est l'occasion pour certains autres de s'affirmer.
Oui, à commencer par l'autre grande star du club, le français Kylian Mbappé. Souvenez-vous, il y a 2 ans, l'attaquant français demandait plus de responsabilités au sein du PSG. Et bien là, ce soir, il a une occasion en or de porter le club de la capitale face au Barça de Lionel Messi, chose qu'il n'est pas encore parvenu à réaliser dans des matchs couperets. D'ailleurs, son entraîneur Mauricio Pochettino se refuse à lui mettre trop de pression sur les épaules.
Kylian, je suis très satisfait de ses prestations. Chaque joueur doit remplir son rôle. C'est sûr que les absences de Neymar et Di Maria ne sont pas une bonne nouvelle pour nous, mais nous avons un groupe de joueurs enthousiastes qui va tout faire pour gagner, c'est notre objectif.
Alors il n'est plus le seul attendu au tournant, Marco Verratti qui n'a plus mal à la hanche doit être ce soir la rampe de lancement au milieu de terrain, celui qui va éclairer le jeu. Enfin en défense, la paire Presnel, Kimpembe, Marquinhos a l'occasion de prouver qu'elle est l'une des meilleures au monde. Bref, Paris peut démontrer qu'une vie est possible, même face au Barça, sans Neymar ni André Di Maria.
Soirée spéciale des 20h sur Europe 1 avec vous, Julien Froment. Merci beaucoup en ligne de Barcelone.
François Geffrier pour le journal, il est 8h15.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. En proposant d'expérimenter des zones sans contrôle d'identité, elle a provoqué un vif tollé. Elle s'en explique ce matin. La défenseur des droits, Claire Hédon, ou bien défenseur des zones de non-droit pour certains. À tout de suite.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h17, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée. Sonia, vous recevez la défenseur des droits, Claire Hédon.
Bienvenue à vous et bonjour Claire Hédon.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce qu'il faut désormais vous appeler la défenseur des zones de non-droit ?
Jamais je n'ai dit ça. Je n'ai jamais souhaité mettre fin au contrôle d'identité. J'ai simplement dit que l'absence dans certaines zones de contrôle d'identité sans traçabilité. Si on écoute la suite de mon interview, je parle de traçabilité. Bien sûr, il y a des moments où il faut ces contrôles. Enfin, quand il y a une atteinte à l'ordre public, quand il y a un comportement suspect, quand il y a une réquisition de la part du procureur, bien sûr qu'il faut des contrôles. Bien sûr qu'il faut la présence de la police dans les quartiers. Mais ça ne veut pas dire contrôler l'identité en permanence. J'ai conscience des difficultés de la police. Ce qui s'est passé à Poissy est dramatique et scandaleux. Les appels à la haine et aux meurtres sont absolument scandaleux, doivent être condamnés. Mais il y a un problème de contrôle d'identité.
Est-ce qu'on en parler ?
Est-ce qu'on sait ?
Mais madame la défenseure des droits, est-ce que vous rétropédalez ce matin sous la pression de la polémique ?
Vous me permettez d'affiner ma pensée, d'affiner ce que j'ai à dire.
Qui ne l'a pas compris ?
Eh bien, beaucoup de gens apparemment, c'est ce qui est quand même assez impressionnant. Je vous le redis, ce qu'il faut faire, c'est évaluer la traçabilité de ces contrôles d'identité. On n'a aucune idée du nombre de contrôles d'identité en France, ça se compte en millions, mais on ne sait pas combien. Quelle est leur efficacité ? Quelle est la politique publique qu'on n'évalue pas ?
Sur leur efficacité,
du nombre de contrôles d'identité
revenir, Claire,
et de leur efficacité.
Sur l'efficacité justement, mais en proposant l'expérimentation des zones sans contrôle d'identité, même si vous y ajoutez aujourd'hui la notion
sans
de traçabilité, mais vous appelez à renforcer des zones où les policiers ne sont plus présents sur le territoire de la République.
Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas de présence de ces policiers. Au contraire, il faut de la présence et une forte présence. Les premières victimes de ce qui se passe, c'est les habitants de ces quartiers. Et vous
alors
pouvez quand même
faire
le crédit de bien connaître la situation
de ces
habitants.
Pourquoi voulez-vous les punir ?
C'est absolument pas les punir.
En donnant un blanc-seing aux délinquants.
Eux-mêmes disent que ça n'a pas de sens de faire autant de contrôles avec si peu d'efficacité, que ça ne leur permet pas de faire leur travail. Les policiers le disent eux-mêmes. Et la question de quantifier ces contrôles, de savoir à quoi ils servent, est absolument essentielle. Je voudrais revenir aussi à l'expérimentation.
Juste un mot, parce que vous avez dit, Claire Hédon, je vous cite, que la répétition des contrôles d'identité est insupportable pour certains jeunes. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est le plus insupportable à vos yeux ? Des contrôles renforcés ou des zones où les policiers ne peuvent même plus entrer ?
Il est scandaleux qu'il y ait des endroits où les policiers ne puissent pas rentrer.
Vous le reconnaissez ?
Mais évidemment, mais je l'ai toujours
dit. Il existe en France des zones de non-droit.
Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas. C'est une évidence qu'il faut que les policiers puissent aller partout, mais pour protéger les habitants.
Mais s'ils le peuvent, Madame Hédon, est-ce qu'il y a des quartiers totalement aux mains de dealers, de délinquants qui font la loi ?
Il y a des quartiers excessivement difficiles, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des contrôles d'identité qui sont discriminatoires. La Cour de cassation en 2016 l'a reconnu, mais la grande difficulté, et la Cour de cassation d'ailleurs l'a dit, c'est qu'on a du mal à évaluer le nombre de ces contrôles d'identité et quel a été le motif. Et c'est bien ça qu'il faut savoir, quel a été le motif du contrôle. Ce qui est juste, que je demande juste, c'est des expérimentations que mon prédécesseur demandait exactement de la même manière, qui est soit un récépissé, soit simplement une quantification, c'est-à-dire un enregistrement du nombre de contrôles qui est fait, avec quel but, soit la question des caméras. Ce qui se passe en
mais
ce moment
vous
avec
demandez,
le Covid,
Claire, vous le demandez dans un contexte qui est particulier. Vous avez cité Poissy, mais plus largement, les policiers sont pris pour cible. Ils sont régulièrement agressés, menacés, attaqués, notamment avec des tirs de mortier. Ils ont pris votre proposition comme une gifle supplémentaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Eh bien, que c'était absolument pas mon propos. Et mon propos, vous savez que le défenseur des droits est le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. C'est à ce titre-là que je m'inquiète de l'utilité à certains moments de ces contrôles d'identité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut les quantifier et qu'il faut mener des expérimentations. Je redis que j'ai bien parlé d'expérimentation, et quand on expérimente plusieurs méthodes, on ne sait pas avant quelle sera la meilleure.
Mais est-ce que ce sont les policiers qui sont le problème aujourd'hui dans les quartiers ?
Ne rien faire en ce moment sur les contrôles. En ce moment sur les contrôles d'identité, c'est ne pas s'attaquer au problème de la relation police-population.
Mais est-ce que les policiers sont le problème le plus urgent aujourd'hui dans les quartiers ?
La question, c'est pas de dire que les policiers sont les problèmes. Quand je dis ça, je dis juste, il y a des contrôles qui sont discriminatoires, il faut l'évaluer et il faut trouver une solution. Ce que j'essaye, moi, c'est aucunement un appel à la haine d'un côté ou de l'autre. Je cherche au contraire à ce que les choses soient pacifiées.
Sauf que par votre proposition, Madame Hédon, vous dites que les policiers créent des incidents. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus insupportable aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les agressions qui se multiplient
contre les policiers ? À quel moment j'ai dit qu'ils créent des incidents ?
Pourquoi ils le ressentent ainsi ?
Je n'ai pas dit que les policiers créent des incidents. Je dis, il y a des contrôles d'identité qui peuvent être discriminatoires. La majorité des policiers n'ont aucune envie de faire des contrôles discriminatoires, cherchent du sens à leur métier, mais simplement, pour pouvoir dire la réalité, il faut pouvoir l'évaluer, le quantifier, et c'est bien ça que je demande.
Parlons-en là. Vous dites que 95% des contrôles d'identité ne servent à rien, mais ça veut dire pour vous qu'il faut arrêter d'en faire, ou au contraire qu'il faudrait que la majorité aboutisse à des actes, des interpellations ?
Ce chiffre, il a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas réévalué depuis, on en revient à ma proposition de la traçabilité, qui permettrait d'évaluer l'utilité. Et puis, en étant le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, nous avons des liens avec nos homologues en Grande-Bretagne, dans le reste de l'Europe. C'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et la Grande-Bretagne, par exemple, qui n'a pas de pièce d'identité, donc qui ne fait pas exactement des contrôles d'identité, fait des contrôles, mais surtout oui, les quantifie, les mesures.
On a envie de
mesures.
Savoir, ce matin, est-ce que vous êtes dans la naïveté ou dans l'idéologie ?
C'est absolument ni l'idéologie, ni la naïveté. Vous vous doutez bien que je parle aussi avec des policiers qui disent bien, mais il y a un moment, ça n'a pas de sens le nombre de contrôles d'identité qu'on fait qui ne donnent pas de résultats.
On en est à plusieurs millions de contrôles. Qu'ils ne donnent pas de résultats ? Il y a des informations, qui sont collectées.
Très intéressant, c'est ça qu'il faut quantifier. Finalement, quand on fait un contrôle d'identité, à quoi il a servi et quel résultat il a donné ?
Mais c'est quoi la traçabilité pour vous ?
La traçabilité, il y a deux sortes. Ce que je vous ai dit, un récépissé, de façon très basique, c'est une des possibilités, mais je ne dis pas qu'il faut expérimenter ça partout. On peut faire ça à un endroit. À un autre, il faut juste quantifier, c'est-à-dire enregistrer la demande de pièces d'identité qui permettra de voir ce que ça a donné. On le fait, en fait, vous savez, en ce moment, pour le Covid. C'est-à-dire qu'avec le couvre-feu, le ministre de l'Intérieur est capable de dire combien il y a eu de contrôles et combien il y a eu d'amendes. En fait, c'est tout ce que
mais
je demande en disant...
Mais pourquoi une présomption ainsi presque de culpabilité
mais
sur la tête
présomption,
des policiers ?
C'est quelle est la politique publique qui n'est pas évaluée ? Cette politique publique du contrôle d'identité n'est pas évaluée.
Mais les policiers, par ailleurs, sont évalués tout le temps et souvent, il y a des contrôles, il y a des enquêtes, madame la défenseure des droits.
Je vous parle juste de la question des contrôles d'identité. Là, je parle que d'une chose.
Et ma question est de savoir, pourquoi vous insistez d'abord sur cela ? Est-ce que c'est une urgence pour vous dans un contexte aujourd'hui d'agression sur les policiers ? Les policiers, ces hommes et ces femmes, veulent rentrer vivants chez eux, tout simplement.
C'est une urgence par rapport au Beauvau de la sécurité. C'est au centre de la discussion du Beauvau de la sécurité.
Vraiment, le ministre de l'Intérieur ne semble pas dire cela.
Le lien police-population. Mais vous voyez bien que je ne dis pas qu'il faut absolument tout réformer. Je dis juste, essayons de faire des expérimentations qui permettraient d'évaluer la quantité de ces contrôles d'identité. C'est simplement ça que je demande, et pas plus de polémique. Et je ne suis pas partisane défenseur des droits, n'est partisan d'aucun parti. La défense des droits
Vraiment,
et des libertés n'est
ni de droite.
Ce n'est
pas une institution partisane et militante ?
Absolument pas.
Au nom de qui parlez-vous ? Est-ce que vous assumez un parcours aussi de militant que l'on peut respecter, évidemment, auprès notamment du mouvement ATT Quart-Monde, en faveur notamment des migrants ?
Militant sur la question de la lutte contre la pauvreté et de l'inclusion sociale. C'est là-dessus que j'étais militante, et ni de droite ni de gauche. Et la défense des droits me paraît... Mais c'est le fondement de notre démocratie, elle est ni de droite ni de gauche. Et heureusement que tous les partis politiques sont pour la défense des droits. Enfin, et on ne me mettra pas dans un camp ou dans un autre.
Mais vous n'êtes pas élu au poste de défenseur des droits.
Absolument
Donc
pas.
Donc au nom de qui vous parlez ?
Nommé par le président de la République, après
vous
avis
avez encore
de l'Assemblée,
sa confiance
après avis de l'Assemblée nationale, et surtout avec nommé pour 6 ans, non révocable, mais non renouvelable, ce qui donne de la liberté. Et à quel titre je parle, vous avez raison de le dire, d'une institution qui depuis 10 ans, et qui après la suite de la CNDS, qui est chargée de la déontologie des forces de sécurité. Mais j'aimerais bien d'ailleurs qu'on parle des autres actions du défenseur des droits, parce que notre quotidien n'est pas celui-là. Des personnes ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Au moment de leur retraite, leur pension qui n'est pas au montant qu'il devrait être. Un jeune qui devrait avoir droit aux APL, aux aides au logement, et qui n'y arrive pas. Et là, c'est là-dessus, une personne qui est en situation de handicap et sur lequel elle demande un aménagement de son poste
Madame
de travail.
Madame la défenseure
de
droit, si je vous demande avec qui vous travaillez, c'est peut-être aussi des associations. J'ai vu sur la plateforme antidiscrimination, c'est important, qui a été mise en place, que vous travaillez notamment avec la Ligue des droits de l'homme. Cette même Ligue des droits de l'homme qui a estimé, lors de la dissolution du CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie, que c'était une atteinte à l'état de droit, alors que l'État veut justement lutter contre la propagande islamiste. Est-ce que vous estimez que c'était une atteinte à l'état de droit ?
Travailler avec l'ensemble des associations, plus d'une centaine hein, dans nos comités d'entente, ça ne veut pas dire défendre les positions des associations. C'est eux, c'est elles, ces associations, qui nous font remonter les difficultés d'accès aux droits, que ce soit sur la question de l'origine, du handicap, de la question des femmes, des LGBT, des enfants. Donc on a des comités d'entente dans tous ces domaines où les associations nous font remonter des difficultés d'accès aux droits. Mais à aucun moment je défends la position de telle ou telle association. Ce n'est pas mon travail.
Si je vous ai posé la question, clairement, c'est parce que vos services de défenseurs des droits ont été saisis par ce collectif contre l'islamophobie, pourtant dissous d'ailleurs, sur l'interdiction du burkini qu'ils jugent discriminatoire. Tout est parti d'une interdiction dans une base de loisirs. Pourquoi leur avoir donné raison ?
On n'a pas du tout donné raison, on est au stade de l'enquête. Je suis aussi très choquée qu'une affaire sorte alors qu'on est au stade de l'enquête. L'enquête, ça veut dire qu'on est dans le contradictoire, qu'on entend les deux parties, ceux qui portent plainte et ceux qui sont de l'autre côté. Nous ne sommes pas l'avocat des personnes qui nous saisissent, c'est très important. On enquête dans le contradictoire. Donc d'abord, on est qu'au stade de l'enquête et dans cette enquête, on rappelle simplement la jurisprudence du Conseil d'État de 2016 qui, à l'époque, avait suspendu des arrêtés municipaux qui avaient voulu interdire le burkini sur la plage. Et on demande simplement à la base de loisirs, est-ce qu'il y a une raison ou sanitaire ou d'ordre public qui fait que vous maintenez cette position ? C'est juste la question qu'on pose dans ce courrier.
Je suis
très étonnée, nous n'avons pas rendu d'avis.
Je peux vous citer une partie du courrier, puisque c'est Georges-Paul Angevin, qui est adjointe au Défenseur des droits, donc qui travaille avec vous, qui écrit « Il m'apparaît que l'interdiction du burkini au sein de la base de loisirs est susceptible de constituer une discrimination. » Ces propos vous engagent.
Mais voyez, vous lisez qu'une partie, parce que toute la suite c'est de dire, mais sauf si vous nous justifiez qu'il y a un problème de santé et d'hygiène, et qu'il y a un problème d'ordre public. Donc c'est l'ensemble du courrier qui permet d'expliquer. Je vous redis que nous en sommes qu'au stade de l'instruction.
Peut-être
nous n'avons
dernière
pas rendu
question.
D'avis, et le Conseil d'État a quand même lui-même donné un avis sur la question.
Peut-être une dernière question, puisque vous êtes une femme engagée, Claire Hédon, est-ce qu'interdire le burkini, c'est discriminant ?
La question n'est pas là, moi je me rangerai sur la législation. Pour l'instant, je rappelle juste l'état du droit. Vous me permettez juste de citer
certains
la plateforme.
Certains vont dire que vous pouvez céder aux islamistes, madame Hédon.
Antidiscrimination.fr, sur lequel vous pouvez, qui est une plateforme avec un chat, un numéro de téléphone, le 3928, des juristes qui vous répondent au bout du fil, qui sont capables de vous aider à faire les démarches et à voir si c'est une discrimination ou si c'est violence et haine et qui renvoie sur les services de l'État. Notre quotidien, c'est de résoudre les problèmes des gens. Une maman qui n'arrive pas à mettre son enfant à la crèche parce qu'il fait des allergies alimentaires, on a permis de résoudre le problème. Un enfant qui n'est pas accueilli dans un centre de loisirs en périscolaire parce qu'il est en situation
une
de handicap.
Une maman qui va en burkini dans une piscine, est-ce que c'est une rupture d'égalité ou pas, madame Hédon ?
Suivant la justification, c'est pas la question que je vous pose, c'est pas le quotidien
c'est
des gens pour l'instant.
C'est la question que je vous pose.
Pour l'instant, le quotidien des gens, c'est une grande inquiétude sur le chômage, les jeunes, est-ce qu'ils arrivent à avoir un stage, un emploi ? Et nous rétablissons les personnes dans leurs droits, dans leurs difficultés au quotidien. C'est le travail du Défenseur des droits à plus de 90%.
Et vous êtes venue vous en expliquer. Merci, madame la Défenseur des droits et des devoirs aussi, puisqu'il y a les droits et les devoirs dans notre République.
Claire Hédon. Toujours.
Merci en tous les cas et bonne journée à vous.
Merci à vous, 8h29 sur Europe 1 à suivre le rappel de l'info. Hélène Zelani, notre santé et notre planète. À tout de suite sur Europe 1. 8h31, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zelani.
Le jugement a été rendu dans la nuit. Le chauffard de Lorient est condamné à 5 ans de prison ferme. En 2019, ce jeune homme avait renversé deux petits garçons au volant de sa voiture avant de prendre la fuite. L'un n'avait pas survécu, l'autre est handicapé à vie. Un jugement suivi à Lorient par Charles Guyard.
De la demi-journée de procès qui s'est étirée jusque tard dans la nuit, on retiendra notamment les mots du principal prévenu Kylian. « Peu importe ce qui va se passer après la douleur des familles, j'y pense tous les jours, je m'excuse. » Condamné à 6 ans de prison, dont un avec sursis et mandat de dépôt à la clé, quand le procureur réclamait 8 ans ferme à son encontre, le jeune homme a donc été reconnu coupable d'homicide et de blessures involontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Conduite sans permis, manquement délibéré à des règles de sécurité, refus d'obtempérer et délit de fuite, un catalogue complet d'infractions routière qui, le 9 juin 2019, ne pouvait que mener au drame. En l'espèce, deux enfants fauchés avec un mort et un blessé grave. La passagère de la voiture, Gaëlle, a elle été reconnue coupable de non-assistance à mineurs en péril. Elle a écopé d'un an avec sursis. Maître Courtois, l'avocat des familles.
Ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est que ces deux personnes soient condamnées et reconnues coupables des faits qui leur ont été reprochés. C'est le cas. La famille est soulagée de cette décision, de cette sanction ferme. C'est important pour elle aujourd'hui de savoir qu'enfin les responsables de ce qui leur est arrivé sont sanctionnés par la justice.
Et de son côté, qu'il Yann, 22 ans, ne fera pas appel. Selon son avocat, il vient de passer sa première courte nuit en prison. Lorient, Charles Guyard, Europe 1.
Gérald Darmanin refuse d'être celui qui met en place des zones de non-droit et de non-contrôle. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier soir lors d'un déplacement au commissariat de Poissy dans les Yvelines. Réponse à la défenseur des droits Claire Hédon, qui était il y a quelques minutes l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle souhaite instaurer des expérimentations de zones sans contrôle d'identité, mais précise bien qu'elle n'a jamais voulu mettre fin à ces contrôles. contrôle. Le taux de chômage en baisse de 8% au dernier trimestre 2020. Il revient à son niveau d'avant-crise. Mais selon l'INSEE, c'est un résultat en trompe-l'œil. Certains chômeurs ont renoncé à chercher un emploi à cause du second confinement. Les députés se prononcent en première lecture sur le projet de loi contre le séparatisme. Vote solennel après deux semaines de débat. Appel à la mobilisation générale dans tous les hôpitaux de France. Le ministère de la Santé leur demande d'activer au moins le premier niveau du plan blanc d'ici jeudi, en prévision d'une nouvelle vague épidémique. Cela sous-entend notamment l'augmentation des lits en réanimation et la déprogrammation des opérations non urgentes. Après l'hôpital de Dax, celui de Villefranche-sur-Saône, à son tour victime d'une attaque informatique. Un logiciel malveillant bloque les données qui ne sont accessibles qu'après le paiement d'une rançon. Les quatre musées de Perpignan resteront fermés aujourd'hui. Hier, le tribunal administratif de Montpellier a tranché. Il a suspendu les arrêtés du maire RN Louis Alliot qui autorisait la réouverture. Une décision de justice incompréhensible pour de nombreux visiteurs. Benjamin Péter.
On nous prive d'avoir des activités intellectuelles et culturelles, c'est vraiment nul, quoi.
Jeanne a voulu profiter des dernières heures. Elle s'est précipitée dans le musée Hyacinthe Rigaud. Elle ne comprend pas la décision du tribunal.
Parce qu'on a le droit juste de consommer, on n'a pas le droit de consommer intellectuellement.
Éric et Claude sont venus spécialement de Montpellier. Un geste pour soutenir la culture et ce malgré la couleur politique de la ville dont ils ne partagent pas les idées.
On est beaucoup plus intéressés dans les commerces, ouais. Alors qu'ici dans le musée, on peut très bien voir qu'on n'est pas collés les uns aux autres.
Quelle que soit la couleur politique du maire, on serait venu.
Parce que c'est le fait que le musée est ouvert qui est vraiment... Un événement important pour nous, quoi.
Pour Louis Alliot, le maire, la ministre de la Culture devrait s'inspirer de son expérimentation qui a attiré plus de 2000 visiteurs en une semaine.
C'est une expérience que nous avons menée. Elle mérite, je pense, de faire école. Le milieu de la culture est en demande. Il est aujourd'hui accompagné par un mouvement d'opinion. Qu'ils en tiennent compte, en prenant toutes les mesures sanitaires, on peut tout à fait réouvrir les musées.
Et il dit attendre maintenant la décision du tribunal administratif de Limoges qui doit se prononcer jeudi sur des arrêtés similaires pris par la commune socialiste d'Issoudun dans l'Indre. À Perpignan, Benjamin Péter, Europe 1.
Et espoir du côté des salles de concert, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, annonce une expérimentation pour 3 concerts debout en mars-avril avec 5000 spectateurs à Paris et 1000 à Marseille. Une grosse soirée foot, Barça-PSG, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, des Parisiens privés de Neymar et Di Maria et un test pour le PSG et son nouvel entraîneur. C'est ce que pense Christophe Jallet, l'ex-joueur parisien, était l'invité de Sébastien Krebs à 7h40.
Ça sera un bon révélateur pour voir en tout cas jusqu'où peut aller le PSG cette saison avec ce 8e de finale, parce qu'on annonçait des Barcelonais un peu friables, un peu moins performants, mais là ils ont montré ces dernières semaines qu'ils étaient de retour au très haut niveau, donc c'est un vrai gros test pour les Parisiens. Il va falloir se donner à 200% s'ils veulent se qualifier.
Un gros test aussi pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. C'est l'entraîneur qu'il faut aujourd'hui pour Paris.
En tout cas, moi j'ai confiance en lui. C'est notre paire de manches là qui l'attend avec cette Ligue des Champions, mais je pense qu'il est prêt, il en a vu d'autres, il a déjà amené un club en finale, donc voilà, je pense qu'il est tout à fait capable de réitérer ça avec le PSG.
Christophe Jallet, soirée spéciale à suivre sur Europe 1 dès 20h, coup d'envoi de la rencontre à 21h.
Voilà pour ce journal complet signé Hélène Zellani. Il est 8h36 et on va retrouver Laurent Cabrol pour cette météo pleine de douceur aujourd'hui.
Oui, de douceur et de beau temps en général. Enfin, on va dire de beau temps parce que c'est compte tenu de ce que nous avons vécu, c'est du beau temps. Mais c'est un peu le principe de la tenaille aussi. Le beau temps sur une grande partie de la France avec deux mâchoires qui nous en serrent. La première mâchoire, c'est la Bretagne où il pleut un petit peu déjà entre Quimper et Lannion. Et puis la Bretagne va dérouler ses pluies sur la Loire-Atlantique, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez que ça n'est, elle va pas rester là, la pluie. Donc ça, c'est la grosse mâchoire avec quelques ondées peut-être en fin de journée sur l'île de France, le centre, la Champagne et les Ardennes et le Poitou-Charentes. Mais dans l'ensemble, ces régions seront sous un ciel le plus souvent nuageux. Et puis l'autre mâchoire, alors celle-là, elle est provisoire parce qu'on la voit à peine arriver et elle partira demain. C'est le bassin méditerranéen, mais au côté plage, hein, où nous avons des petites brines marines sans conséquence. Enfin, sur toutes les autres régions, ce sera ou beaucoup de soleil ou un petit peu de soleil. Les meilleures chances de voir le soleil pour le Mâconnais, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes sera pas mal non plus pour le sud-ouest, le Massif central et la Bourgogne. Voilà, et les températures, vous l'avez dit, Sébastien, elles sont particulièrement douces, entre 12 et 17 degrés, s'il vous plaît. Ça ne fait que commencer. La suite est quand même très très douce. Hein.
Très bien, merci beaucoup. Laurent Cabrol sur Europe 1. Dans un instant, on prend soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed est une innovation à découvrir, la montre connectée qui permet de se faire soi-même un électrocardiogramme. Notre planète avec Fanny Agostini, des solutions pour améliorer notre environnement. Aujourd'hui, les nouvelles techniques agricoles pour mettre fin aux marées vertes en Bretagne. Et puis Nicolas Cantelou et Julie pour la revue de Presque. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h39 sur Europe 1, notre santé. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et nous parlons de l'hypertension artérielle. Ce matin, c'est important de la surveiller, d'avoir un tensiomètre à la maison. Vous avez trouvé une innovation créée par l'entreprise française Withings. Innovation avec un tensiomètre justement un peu particulier.
Oui, alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que l'hypertension artérielle, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. C'est la pathologie cardiovasculaire qui est aussi la plus fréquente. C'est un Français sur trois qui est touché, et parmi eux, vous en avez la moitié qui a de l'hypertension artérielle sans le savoir. Ça veut dire que là, quand les auditeurs nous écoutent, eh bien parmi eux, certains ont de la tension mais ne le savent pas, parce que l'hypertension artérielle, ça agit comme un tueur silencieux. Vous pouvez avoir 15 de tension, 16 de tension, ne jamais le sentir. Pour autant, eh bien vos artères, vos organes vont en prendre un coup et finiront par aboutir à des maladies. Et on sait que l'hypertension artérielle, c'est la première cause évitable d'accident vasculaire cérébral. Et donc, avant de traiter l'hypertension, il faut savoir si vous en avez. Donc, vous pouvez acheter un tensiomètre classique ou bien alors investir dans cette innovation française, un tensiomètre connecté qui fait plusieurs choses. Un, il prend la tension, c'est ce qu'on lui demande. Il va vous prendre trois mesures qu'il va directement envoyer sur votre téléphone. Mais aussi, il va vous faire deux autres choses assez incroyables. En tout cas, moi, en tant que docteur, j'ai trouvé ça impressionnant. La première chose, c'est un électrocardiogramme. Il va enregistrer votre cœur pour savoir s'il est régulier ou pas, si vous faites de l'arythmie. Et puis, il y a une autre petite chose, c'est qu'il y a une valve au niveau du tensiomètre, un petit rond que vous allez mettre au niveau de votre cœur, qui va aussi enregistrer vos bruits du cœur et agir comme un stéthoscope. Je vous laisse écouter, c'est assez impressionnant.
C'est comme le stéthoscope à l'ancienne ?
Exactement, c'est comme le stéthoscope, sauf que là vous entendez mon cœur, je me suis fait une petite tension, et ensuite il vous fait une analyse pour vous dire si vous avez une valvulopathie, c'est-à-dire une fuite cardiaque qui nécessite une prise en charge chez le cardiologue.
Alors vous parlez d'arythmie cardiaque, mais on n'a pas toujours son tensiomètre à portée de main. Comment on fait si ça nous arrive, je sais pas, quand on est dehors, en vacances, au travail ?
Eh bien c'est la situation la plus fréquente. Je vais voir un patient qui me dit, écoutez docteur, j'ai eu des palpitations. Le cœur s'est mis à battre un peu vite, il était 20h, ou j'étais au travail, peu importe. Moi j'arrive, le cœur est normal puisque l'arythmie est partie. Eh bien à ce moment-là, direction le cardiologue qui va nous dire, on va vous faire un enregistrement sur 24 heures, c'est très poussif. Sauf que là, il y a un nouvel outil, toujours de la même entreprise, qui permet de faire un électrocardiogramme avec votre montre, vous la mettez à votre poignet, vous lancez l'électrocardiogramme et ça vous fait l'enregistrement sur 30 secondes. Et moi, en tant que docteur, je peux interpréter cet enregistrement, car souvent les promesses ne sont pas tenues, mais là, vous pouvez envoyer les données au médecin qui peut vous dire si c'est une arythmie cardiaque ou un peu de tachycardie. Et à ce moment-là, si c'est une vraie arythmie, on vous donne des anticoagulants et un bêta-bloquant et ça vous évitera un accident vasculaire cérébral. C'est peut-être ça, les outils connectés du 21e siècle, mais qui sont déjà disponibles dès aujourd'hui.
Ça coûte cher ?
130 euros pour la montre. Donc c'est un petit investissement. Elle n'est pas une broche non plus, mais ça c'est l'esthétique. Moi, je vous parle que du côté médical.
Voilà. Sans rendez-vous à 15h avec Mélanie Gomez, vous allez parler des changements de vie, c'est ça ?
Exactement. Avec un docteur en psychologie, comment ne pas passer à côté de sa vie et réaliser ses aspirations profondes. Soyez au rendez-vous.
À tout à l'heure sur Europe 1 à 15h. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour
notre
à tous.
Notre planète avec vous, chaque matin vous pointez ce qui marche, les initiatives positives qui améliorent notre environnement, qui produisent déjà des effets. Et ce matin on va commencer avec une bonne nouvelle. On a longtemps parlé du fléau des algues vertes, eh bien ces marées vertes reculent aujourd'hui en Bretagne.
Alors attention, oui, j'ai pas dit qu'elles avaient disparu, hein, mais on annonce une baisse de 7%, c'était en 2020, par rapport à la moyenne habituelle. Pour rappel, ces fameuses algues vertes sont celles effectivement qui viennent recouvrir les côtes bretonnes. Elles sont une réelle nuisance. Nuisance tout d'abord olfactive, puisqu'elles dégagent une odeur putride. Nuisance touristique aussi, parce que ces marées vertes rendent un tas de plages complètement inaccessibles. Nuisance toxique enfin, puisqu'une exposition continue de quelques minutes au gaz libéré par la putréfaction des algues peut être mortelle pour les animaux comme pour les humains. Dans l'eau, elles asphyxient l'espace au point qu'aucune vie organique ne peut se développer jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et puis, depuis les années 70, il faut dire que le phénomène ne fait qu'augmenter, ce qui paralyse de plus en plus d'écosystèmes aquatiques. Sauf que l'an passé, je viens de vous le dire, eh bien pour la première fois, une diminution a été observée.
Alors, rappelez-nous ce qui cause ces marées vertes.
Alors, la présence d'algues vertes est tout à fait naturelle et la Bretagne n'est pas un cas isolé. La marée verte touche aussi l'Inde, la Tanzanie et les États-Unis, pour ne citer que. Mais la géographie de la côte bretonne est particulièrement favorable à leur prolifération, et ce pour trois raisons. D'abord, les eaux bretonnes sont peu profondes, donc la photosynthèse des algues tourne à plein régime. Ensuite, le courant y est faible, donc les algues stagnent. Et puis surtout, les eaux bretonnes sont saturées de nitrates, des rejets qui à 90% viennent de l'agriculture via les déjections animales riches en nutriments, mais surtout via l'utilisation de fertilisants artificiels pour l'agriculture intensive. Et donc ces fertilisants vont jusqu'à la mer par ruissellement.
Alors Fanny, quelles sont les solutions qui fonctionnent pour limiter ces phénomènes ?
Alors déjà, réduire notre utilisation de fertilisants, ça c'est la clé, mais aussi, c'est moins évident, renforcer les sols. Ce que je veux dire par là, c'est que les grandes cultures spécialisées fragilisent la terre en supprimant les haies composées d'arbres et de buissons. Les supprimer, ça veut dire supprimer aussi les racines. Je vous en parlais déjà hier de ces haies. Faut savoir que les grosses racines sont très importantes car elles tiennent le sol et absorbent beaucoup de nutriments, dont le nitrate. Avec ce double objectif en tête, du coup, plusieurs initiatives ont vu le jour depuis les années 2010. Le gouvernement lègue progressivement au Conservatoire du Littoral les surfaces les plus mises en cause. Puis, le Conservatoire du Littoral discute avec les agriculteurs de comment maintenir leur activité, tout en adoptant des pratiques tournées vers l'agroforesterie et bien sûr moins consommatrices d'intrants, d'engrais. Depuis quelques mois et surtout l'année 2020, les résultats sont encourageants avec moins d'algues. Ces algues vertes qui, on peut le dire, sont un baromètre. Moins il y en a, eh bien, plus les pratiques agricoles sont vertueuses.
Voilà, on comprend chaque matin avec vous les réactions en chaîne des haies aux pratiques agricoles et jusqu'aux algues vertes. Merci Fanny Agostini, à demain.
Europe 1, Sébastien Krebs.
8h45, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous musical. On écoute le monde chanter avec vous, Angèle Châtelier.
Bonjour Sébastien.
Alors, qu'est-ce que vous nous faites découvrir ?
Vous allez sûrement reconnaître.
La nuit, je m'en...
C'est loin d'être une découverte. On va écouter Alain Bajon, mais plutôt les artistes qu'il a réinterprétés.
La nuit, je m'en...
C'est à suivre sur Europe 1, avec Nicolas Cantelot, bien sûr. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h48, on écoute le monde chanter avec vous, Angèle Châtelier. Ce matin, un classique, le Grand Bachung.
Le Grand Bachung. Je vous propose qu'on écoute quand même un petit tube, Sébastien, histoire de se mettre dedans, juste pour le plaisir.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Gisèle clappe dehors.
Alors on le sait, quand un aussi grand artiste décède, lui c'était en 2009, et bien nous avons le droit chaque année à des rééditions, des vieilleries sorties des tiroirs, des lives exhumés, mais c'est toujours un régal. Et cette semaine, ce n'est pas tant des tubes de Bachung qui réapparaissent, mais un vinyle appelé Alain Bachung Cover, 11 reprises d'artistes à qui il a rendu hommage pendant sa carrière.
Alors, à qui rend-il hommage ?
Bien des Français d'abord, Léo Ferré, Hugo Frey, mais aussi des Américains. Elvis Presley par exemple, et même Jimi Hendrix. Voilà ce que ça donne, Jimi Hendrix à la sauce Bachung.
Il est sur scène là, Bachung, c'est du live.
Il est sur scène, c'est un live, une tournée en 1985, Dieu que ça nous manque. Bon, d'autant qu'il n'y a pas qu'une seule piste de concert dans ce vinyle. En 2008, Bachung jouait à l'Élysée-Montmartre à Paris, l'un de ses derniers concerts. Et il chante alors Everybody's Talking, une chanson popularisée par Harry Nilsson en 1969. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Sébastien, c'est la BO du film Macadam Cowboy. Écoutez. Everybody's talking at me. Eh bien, Alain Bachung,
ça c'est l'original.
Et voilà, Alain Bachung a repris cette chanson avec sa voix grave et imposante et une guitare plus discrète.
I'm going where the sun should shine in, to the pouring rain. Going where the weather should far close.
Et puis apparemment, alors donc ce que je vois sur ce vinyle que vous nous avez rapporté en studio, c'est que Bachung a aussi chanté Christophe.
Tout à fait. En 1992, 18 ans après l'un de ses plus gros succès, Les Mots Bleus, les deux versions, vous allez l'entendre, n'ont rien à voir.
Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles.
Cette reprise, au-delà d'être magistrale, témoigne de l'engagement de Bachung à l'époque, puisqu'il l'a réinterprétée pour un album particulier qui était vendu pour soutenir la recherche contre le sida.
Voilà, pour Christophe, vous en avez cité un autre tout à l'heure qui m'a interpellé. Bachung chante Elvis
et
Presley.
Oui. Bachung,
faites-moi écouter
ça. Oui, Bachung s'est risqué à reprendre l'un de ses classiques, That's Alright Mama, en 1993, et ça fonctionne, évidemment.
Well, that's alright, mama. That's alright to you.
That's all right, Mama, just any way you yeah, that's all right. That's all right. That's all right, now, Mama, any way you do. Mama, she don't tell me, Papa don't tell me too. Boy, that girl you put in with, she ain't no good for you. That's all right. That's all right. That's all right, now, Mama.
Pour l'harmonica d'Alain Bashung. Oui. Alain Bashung Covers, c'est donc ce nouveau vinyle qui est disponible aussi sur les plateformes d'écoute en streaming, donc de toutes ces reprises d'Alain Bashung. À demain pour écouter le monde chanter. Angèle Châtelier, qu'est-ce qu'on écoutera?
On découvrira Noé Préchoff, un jeune artiste qui était nommé cette année aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Masculine.
À demain, 8h52. Et voici le meilleur de Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie.
Presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. Nicolas Sarkozy s'en est encore pris aux écologistes. Invité à une conférence, il a profité de sa tribune pour se moquer des écologistes qui sont, selon lui, ceux qui défendent les crapauds à poils jaunes et poils bleus et qui sont contre tout ce qui est moderne. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour. Merci de m'accueillir, monsieur Béa, monsieur Mamet. C'est Cameron. Écoutez, tutti quanti. Écoutez-moi. Que j'entends-je? Je fais une critique hier et maintenant aujourd'hui, c'est de bon ton, c'est malin. On critique ma critique. Non, mais franchement, je me pose la question. Mais décidément, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Hein, déjà qu'on n'a plus le droit de liser tranquillement le merveilleux roman d'Agatha Christie. Les 10 petits singes. Et maintenant, on ne peut plus dire que les écolos sont ceux qui défendent les crapauds et voudraient qu'on soit reviendu. Voulez quoi? Qu'on soit reviendu à la préhistoire.
Mais
c'est
non,
ça.
Mais non,
ah,
mais...
c'est sûr qu'il y en avait des crapauds à la préhistoire.
Monsieur Sarkozy, la défense de l'environnement, ce n'est pas juste la défense des petits oiseaux. On vit dans notre environnement. Ben, c'est logique, on en prend soin, quoi.
Et allez, la Mme Julie qui est contaminée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Julie? Vous avez mangé du Yannick Noah au petit déjeuner? Hein? Vous lisez un texte qui a été écrit par Bob Marley ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais les Français sont sensibles à la défense de l'environnement. C'est même la raison du succès des Verts aux municipales. Hein? Un succès dont vous avez dit qu'il n'était pas un signe de progrès.
Mais non, mais écoutez, le progrès, écoutez, Mme Julie, le progrès, c'est pas de manger bio, de trier ses déchets, d'arrêter d'exploiter des enfants dans des mines de terres rares ou de nettoyer les océans. Hein, mais vous verrez qu'il y a encore des gens qui vont trouver ça très bien. Qu'est-ce que je dis?
C'est quand même étonnant. Hein. Vous êtes à l'origine du Grenelle de l'environnement. On vous pensait un petit peu plus écolo, M. Sarkozy.
J'ai toujours été, hein. mais à ma façon. Hein, j'ai recyclé tout un tas d'idées, Mme Le Pen, par exemple. C'est ma façon de recycler, ma façon à moi de promouvoir les circuits courts.
Hier, c'était le classico PSG-OM qui s'est soldé par une victoire de l'OM sur le PSG. Un match marqué par de nombreux cartons jaunes, cartons rouges aussi, et une bagarre générale. On va recevoir Anne Hidalgo.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je suis aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans l'apaisement. Et je tiens donc à féliciter les Marseillais et à travers eux, la maire de Marseille pour leur victoire hier soir, car je suis fair play. Même si nous n'avions pas Monsieur Mbappé sur le terrain.
Alors on va recevoir aussi celui qui représente le mieux Marseille, Jean-Claude Godin.
Mais je tenais à dire que j'adore Paris.
Ah bon?
Alors, ouvrons les yeux, c'est quand même la capitale de notre beau pays et vous avez même le beau temps en ce moment, on se croirait à Marseille. Et merci en tout cas pour vos compliments, pour notre écrasante victoire hier soir sur le score fleuve de 1-0.
Écrasante victoire, oui. Alors, cette rivalité entre Paris et Marseille, elle existe entre les supporters radicaux, mais pas entre vous deux, là, bien entendu.
Mais non, bien sûr que non, peu cher.
Bien sûr que non, enfin, il n'y a pas de rivalité à avoir contre une équipe De toute façon, que l'on rouste 20 fois d'affilée, qui a juste eu hier soir, c'est vrai, un gros coup de cul. Oui, je vous taquine, mon cher Jean-Claude, je vous asticote. Hein.
Oui, bah écoutez, Madame Hidalgo, ça c'est sûr que quand on a le PIB des États-Unis d'Amérique pour acheter des joueurs, c'est plus facile. Hein. Vous me rappelez, chère Anne, le score de la finale, vous avez paumé, je crois. Donc, vive le Bayern et allez l'OM à jamais, qui resteront les premiers, parce que nous, Madame, nous avons été sacrés champions d'Europe.
Ah ben c'est sûr que quand on achète et le match et les arbitres, c'est beaucoup plus simple de gagner.
Non mais dis donc, monsieur Bédard, madame Julie, je vous prends témoin. Dis donc, elle va se calmer la Bernardino en jupe là, hein, ou je lui fais bouffer son Vélib tout entier.
Attention, attention, ne vous énervez pas mon cher Jean-Claude.
Je fais ce que je veux.
Quand même que vous avez bientôt 134 ans, hein, et que vous habitez dans la ville la plus covidée de France, Marseille. Et hop, prends ça dans ton dentier.
Oh, mais calmez-vous tous les deux, enfin. Allez.
Non, mais alors, non, les oui, qu'est-ce qu'il y a?
Vieux débris.
Non, non, c'est trop. Les insultes maintenant, eh bien écoutez, moi je vais lâcher le mot. Je sais que c'est pas l'heure pour le dire, mais je lâche le mot, je lâche l'insulte. Écologiste, va.
Père Jean-Claude, je vous emmerde.
Non, mais toi, attends, lâche-moi.
Bon, allez, on va les laisser, je crois. Hein.
Nicolas Canteloup, le meilleur chaque matin et à écouter à volonté bien sûr sur Europe1.fr. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
Notre info média du jour, on va parler de la nouvelle formule de Nice Matin, un an tout juste après avoir été racheté par Xavier Niel, le patron de Free. Quel changement? Comment le journal compte-t-il relancer sa diffusion en perte de vitesse? Élément de réponse, nous sommes avec le directeur des rédactions du groupe de Nice Matin, il s'appelle Denis Carreau. Sommaire également, l'anniversaire d'un programme devenu incontournable sont les 40 ans du journal télévisé de TF1. Ça existait avant, le journal, mais il ne s'appelait pas le JT. 40 ans aujourd'hui, nous serons avec la présentatrice et rédac-chef des JT du week-end de la chaîne, Anne-Claire Coudray, puis notre invité. Il a été chanteur et aussi compositeur, notamment la comédie musicale Mozart, l'opéra rock, c'est Vincent Baguian. Il est également écrivain, il nous présente son dernier livre et c'est un livre jeunesse.
A tout de suite pour Culture Média, juste après les infos de 9h. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, 5h Théo Manval, je vous retrouve en direct à partir de 7h sur Europe 1. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.